Le mag sport avec Loïc.
Et bonsoir, chers amis sportifs, bienvenue à l'antenne de Radio Digest pour votre mag sport du 24 novembre 2017. Aujourd'hui, dans votre mag sport, nous reviendrons sur la première sélection de Kim Cazaux en équipe de France B et son immense fierté d'avoir côtoyé le Saint du Sel du football français, Clairefontaine. Mais nous reviendrons aussi avec sa coéquipière en club, l'internationale camerounaise Yvonne Lecou, sur le derby à Rodez qui s'est soldé par un match nul et la réception importantissime de Guingamp à Maurice Rigaud le 3 décembre à 15h. Mais avant tout cela, allons voir les dernières nouvelles du Sporting Club albigeois qui a pris une victoire pleine de promesses, 45-7, samedi face à Bourgoin au Stadium, rassurant public et suiveur sur la capacité des joueurs du SCA à atteindre leur objectif remontada. Mais maintenant, voilà que demain à 14h30, les jaunes et noirs vont débarquer en Normandie. Et oui, demain après-midi, le Sporting Club albigeois sera sur le champ de bataille en Normandie, non pas sur les plages de Omaha Beach, mais au stade Mermoz avec sa piste cendrée florant les soirs d'antan et ses tribunes aussi vétustes qu'un bunker du mur de l'Atlantique. Après avoir connu le chaudron du Gradu à Aubenas, les albigeois risquent d'avoir encore affaire à une ambiance des plus spéciales. Mais à Rouen, on sait recevoir, à la différence des dirigeants de SCA, alias les Châtelains, pour les supporters qui avaient augmenté ostensiblement les places lors du match gala face à Provence, vidant un peu plus les travées du stadium, en plus de la présence à la télé qui avait poussé certains supporters à rester au chaud. Et bien à Rouen, cette entrée générale à 10 euros, gratuit pour les femmes et les enfants de moins de 12 ans, et 8 euros pour les étudiants. Messieurs les dirigeants SCA, à mon humble avis, il serait peut-être de bon ton de s'en inspirer, car elle est peut-être là l'astuce pour re-remplir la tribune Jomir, actuellement aussi clairsemée qu'une salle de cinéma d'art et d'essai. Mais pour revenir aux sportifs, ce match entre Albi, toujours 5e avec 21 points, puisque l'appel de la réclamation est suspensif, mais nous y reviendrons plus tard, et Rouen, 8e avec 15 points, est le genre de match piège qu'Albi va tenter de négocier. Car Rouen, qui était érigé à l'intersaison en favori à l'accession à la Pro D2, a eu un démarrage poussif du fait d'un effectif grandement renouvelé et d'un temps d'adaptation légitime aux joutes de Fédéral 1 élite. Mais le Rouen Normandie Rugby, amené par l'ancien international anglais Richard Hill, finaliste de la Coupe du Monde 91 perdu face à l'Australie de David Campese, ayant participé au Grand Chelem 91 du 15 de la Rose, est une équipe très solide physiquement que l'SCA ne devra pas galvauder, car en train de monter en puissance, pour preuve, ils ont grandement embêté Chambéry et Bourg lors de leurs deux derniers déplacements, ne s'inclinant que respectivement 13-3 et 27-20. Lors de leur dernière réception, celle de Limoges, les Rouennais avaient disposé de justesse des visiteurs, 12-6. Autre spécificité de cette équipe, la présence en outre de Richard Hill, de 11 autres sujets de sa majesté, en l'occurrence 10 anglais et un gallois, donnant un accent so-british à cette équipe. Les albigeois qui sont partis ce matin à l'aube, pas à l'heure où blanchit la campagne, mais presque, pour un périple de plus de 12 heures de bus, étaient à 11h30, dixit le président Roumé Goux, que nous avons pu joindre ce matin, et qui accompagne les joueurs dans cette odyssée normande, aux environs de Brive. Tiens, ça a dû rappeler des souvenirs quelques-uns, pour se rassurer et faire une pause. Pour un certain Gaëtan Bertrand, ce périple de 12 heures ne lui est pas inconnu, car l'an dernier, avec Lavore, il avait rencontré en demi-finale du challenge Jean Prat les lions rouennais et se fredonne peut-être-t-il au fond de sa tête.
Caressent les temps des vacances et qu'on peut sortir de chez nous promenade. C'est sous le beau ciel de la France que j'aime passer le mois d'août. Je prends la Marne et puis Paris. J'ai fait la route sans détour. J'aime revoir la Normandie. C'est un pays où je reviens toujours. À la Normandie, à la Normandie.
Le groupe Jaune et Noir part donc dans une nouvelle mission commando pour aller récupérer à l'extérieur les précieux points qu'ils ont laissés échapper à domicile. Mais après un récital face à Bourgoin, suivant un match face à Roval intense, les Albigeois ont pu préparer dans la sérénité ce dernier dépassement de l'année civile 2017 et de la phase aller de ce championnat de Fédéral 1 Elite. Les troupes Jaune et Noir vont livrer une bataille de 80 minutes qui peut, en cas de résultat positif, les faire basculer dans un cercle vertueux qui pourrait ouvrir de nouveaux horizons. Mais qui de mieux que le général en chef de cette opération Overlord rugbystique pour nous parler de ce match, de ces soldats du ballon ovale, de la gestion de ce trajet en bus, ainsi que pour nous faire un point détaillé de la réclamation en cours d'Aubenas. Écoutons Arnaud Mella qui répondait aux questions d'Éric Théron de La Dépêche, de Laurent Batigny 100% et de Radio Albiégis, bien sûr, lors du point presse de jeudi matin.
La préparation de cette semaine avec une victoire la semaine dernière, c'est peut-être plus simple de parler aux gars.
Oui, bien sûr. Déjà, ça, s'entraîner après des victoires, c'est toujours plus facile et il y a beaucoup plus d'enthousiasme. Après, c'était une semaine, bon, il a fallu qu'on fasse un peu assez léger. On n'a pas fait grand-chose quand même parce qu'on a anticipé le voyage à 12 heures de bus, donc on ne peut pas rester trop de temps sur le terrain. Donc on a privilégié un peu la fraîcheur. On va refaire une petite mise en place cet après-midi, mais ça va être très léger et pour essayer de les préparer au mieux. Quoi.
Qu'est-ce que vous savez sur cette équipe de Rouen?
Qu'est-ce qu'on sait? C'est très costaud devant. C'est une équipe qui a un bon contre en touche. Ils gênent vraiment les équipes adverses. Après, ils sont très bien organisés. C'est assez simple, mais c'est super bien fait. Donc, du coup, ils ont des joueurs qui viennent très fort sur la ligne, à plat, sur la ligne, avec de la vitesse et derrière la zone du 10. Donc, faut pas faire d'erreur défensive parce qu'ils ont des mecs qui mettent de la vitesse dans les intervalles. Donc, voilà. On a un peu bossé la défense, à nous de rester dans les couloirs. Et puis après, c'est une équipe, il y a beaucoup d'Anglais, donc ils sont capables de tenir le ballon 5 minutes sans faire spécialement de la magie, mais ils font pas de faute de main, c'est précis. C'est, donc voilà, ils ont un bon buteur, ils ont un mec qui sort du camp aussi au pied, qui est beaucoup de longueur. Donc tu peux les coincer dans leur but, il va aller sortir une touche dans tes 40. Donc une équipe difficile à manœuvrer à l'extérieur. Quoi.
Qu'est-ce que vous savez de vos certitudes sur l'équipe d'Albi?
Les certitudes, c'est que quand on arrive à. Quand on met tout l'engagement qu'on y met ces temps-ci, et bien avec ça déjà, je sais qu'on est toujours proche de la victoire à l'extérieur ou à la maison, on y sera en tout cas. Maintenant, il faut qu'on garde cette intensité et cette envie de faire les choses ensemble. Et l'état d'esprit qu'il y a eu sur Roval et sur Bourg, ça c'est top. Et c'est avec ça qu'on arrivera à faire une belle saison. Quoi.
Vous avez engrangé de la confiance à domicile avec ce beau match contre Bourgoin. Vous allez débarquer en mardi avec des grosses ambitions.
Ouais, des ambitions, déjà des ambitions. Ce qu'on veut, c'est retrouver avoir des certitudes sur ce qu'on vient de faire depuis 15 jours. Il faut confirmer le rugby, le plus dur c'est de se remettre au boulot, de se remettre en permanence en question. Donc si par malheur on se dit ça va le faire, bon allez j'étais à 80%, je vais passer à 70, mais ça suffira pas. Donc il faut garder vraiment beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie de faire des choses ensemble. C'est ce que je crains le plus. Après il y a ça et le bus. Voilà. Une fois qu'on a géré le souci de la fatigue, après s'ils ont envie de se démener, de se mettre en face des mecs, il n'y a pas de souci. Après au niveau du rugby, on est aussi bon que les autres, il ne faut pas s'inquiéter. Donc là, ce qu'il faut, c'est une envie collective. L'organisation, elle est là. Il faut continuer à faire, aller chercher les mecs, les harceler. Quand il y a un ballon par terre, ce que je veux, c'est que ce soit notre bijou qui le ramasse et pas les autres. Et il n'y a que comme ça que ça peut le faire. Quoi.
Parlons-en un peu, ces 12 heures de bus, comment on fait pour gérer ce périple?
Comment on fait? On va essayer de faire 3 arrêts, en fait. On va faire un arrêt pour manger, bien sûr, qui va durer une heure et demie. Et après, on va essayer de refaire derrière au moins 2 ou 3 arrêts, quoi, des 20-25 minutes. pour essayer de faire des coupures, quoi, qu'ils puissent se lever, marcher un peu, parce que rester 12 heures allongé dans un, enfin, plié en 4 dans un bus, c'est pas très bon. Et du fait qu'on joue à 14h30, ben voilà, le lendemain matin, c'est juste déjeuner, étirement, et c'est basculé, c'est parti, on mange et le match est là, quoi. Donc...
C'est plus long le déplacement avec Strasbourg. Strasbourg, c'est peut-être encore
un peu... Strasbourg, je crois que c'est un peu plus long, mais bon, ça, ce sera le dernier match. Mais là, pour le moment, ouais, celui-là, il est dur. Pour les joueurs, c'est voilà. Il est difficile de faire un match de haut niveau avec ça dans les pattes.
T'as déjà joué à Rouen, toi?
Non, j'ai jamais joué à Rouen. Non, j'ai jamais joué à Rouen. J'ai déjà joué, par contre, des déplacements longs. Ouais. Très long, mais là 12 heures, non, j'ai fait des 9 heures, ouais. J'ai fait des briefs tout longs une fois en bus, c'était 9 heures. Après, plus loin, alors.
Il paraît, Chambéry, ils font ça en voiture.
Et
il y a plusieurs voitures, et ça va plus vite, et c'est différent. Enfin,
voilà, ce que j'aurais pensé, voilà, pour le futur, peut-être pour Strasbourg, c'est peut-être louer 5 minibus, on met 5 dirigeants chauffeurs, ouais. Et on fait un voyage comme ça, ouais, tu roules à 140, tu gagnes 2 heures, tu peux faire un arrêt, non, mais c'est. Ouais, ouais. Mais bon, après, bon, j'aime bien aussi le côté aussi qu'il y avait des 12 heures ensemble en chier, dans le même bus.
Ouais, on est fondateur pour le groupe.
Voilà, donc bon. Il y a du bon et du pas bon dans tout ça.
Et cette équipe de Rouen, il y a des gros bébés, c'est assez solide. Tu nous as préparé un petit coup pour essayer de les contrer.
Ben là, on verra bien. C'est vrai qu'ils ont une équipe, ils ont un gros milieu de terrain, hein, avec un Tongien qui est plutôt jeune, hein, qui a mon âge, mais qui est très fort sur l'homme. Et un mec qui a envie d'avancer avec le ballon. Après, ils ont 10 joueurs. Un anglais qui est un bon joueur, et après devant, voilà, ils ont 2-3 individualités, mais c'est quand même collectivement aussi qu'ils ont vraiment un gros pack, et donc il va falloir être solidaire.
Ouais, c'est gros partout, quoi. T'as l'impression qu'il faut les déplacer, moi j'ai dit contre le Chambéry, non, Bourgoin, t'as l'impression que les 15, ils sont goulés comme des gogottes.
Il est difficile de les déplacer, parce que, enfin, pas difficile de les déplacer, mais ce qu'il faut, c'est arriver à tenir le rythme, la profondeur et de la vitesse. Parce que c'est des équipes qui, bon là c'est anglais, donc après 2 temps de jeu, ils sont capables de te re-rusher dessus en défense, et au bout de 6 temps de jeu, ils sont encore capables de re-rusher en défense, parce qu'ils sont très bien organisés, c'est leur façon, leur méthode de travail de tout jeune en Angleterre, et donc c'est des erreurs de les jouer de les jouer de trop, quoi. Donc il faut faire un gros match en conquête, un gros match devant, et le match se gagnera devant, et bien sûr par la suite les trois quarts feront le score. Ouais.
Une dernière petite question, la simple éternelle question des supporters, on en est où de cette réclamation de nos amis de l'Ardèche?
Et alors les Ardéchois, là, on a reçu on va faire appel, je pense, dans la semaine, là. On a reçu le courrier hier, je ne dis pas de bêtises, donc voilà, l'appel va se passer maintenant, mais bon, ça va prendre du temps, hein.
Ok. C'est quoi les attendus de la décision?
Oh ben, les attendus, c'est qu'on reste à statu quo et puis basta, quoi. Il n'y a pas de, raison.
Il reste sur l'histoire des 1 minute 30.
Ouais, voilà. Gagner, ouais, si, au pire, ils leur filent un point de bonus. S'ils disent, ils estiment qu'ils auraient marqué un essai, ils leur filent un score de 16 à 20 et puis voilà, tout le monde est content, quoi. Bon, on va pas repartir là-bas, se faire des trajets, des dépenses, et eux leur filent une seconde recette. Hein.
Ouais, pour l'instant, c'est ça, quoi.
Ah, pour le moment, c'est ça, mais bon, on va essayer de se défendre, de tout faire pour pas qu'ils obtiennent un gain de cause, quoi.
Là, il y aura un avocat, un dossier un peu plus solide que la première fois, parce que vous y étiez allé un peu en dilettante, on va dire. Hein.
Mais ouais, je pensais pas que. On pensait pas que la commission allait valider un truc comme ça quand tu vois le match. Alors, bien sûr, si on avait. Peut-être, bon, c'est toujours pareil, hein, mais. Ils ont eu une occasion de marquer dans le match et ils nous racontent qu'à 1 minute 30, ils avaient prévu de marquer deux fois. Donc bon. À la 76e, et on a quand même après joué à 13 contre, à 12 contre 14 après pendant 3 minutes ou 4 minutes, et ils n'ont pas eu une occasion de marquer. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage.
Aller chercher bonus offensif.
Et bien, ça serait une belle récompense pour tout le monde, mais j'espère qu'on ne sera pas là.
T'auras pas de mal à les motiver.
Non, bah ouais, c'est sûr.
Merci, Ron.
Allez.
Merci.
Nous verrons bien quelles seront les suites de cette réclamation qui devient, au gré des semaines, l'arlésienne du club. Pour aller en terre rouennaise, Arnaud Mella alignera la composition suivante. En première ligne, le jeune Swan Cormonier semble avoir gagné ses galons titulaires au poste pilier gauche, enchaînant une troisième titularisation de rang, et sera accompagné de l'ex-Herbé Romain Casals au talon et du géorgien Zaza Navrozashvili à droite. En seconde ligne, Gianni Gaillard sera aux côtés du sage de l'équipe, Mathieu André, le stratège de la touche. La troisième ligne est la suivante, le jeune Paul Faré, pur produit de la formation albigeoise et dont la fougue et le talent furent récompensés d'un magnifique essai samedi mercredi face à Bourgoin, enchaîne lui aussi une troisième titularisation d'affilée et s'affirme au gré des matchs comme la révélation de ce début de saison. À ses côtés, William Wetton au centre et le basque Asier Usaraga l'accompagneront dans cette troisième ligne qui commence à faire ses preuves. À la charnière, Thibaut Bisman, bien remis à sa blessure au dos et auteur lui aussi d'un essai contre Bourgoin, sera derrière la mêlée, accompagné son compère et capitaine Romain Barthélémy, qui a beaucoup tenté et a eu énormément d'inspiration face au Berjalier. Derrière la paire de centres, Bertrand Vergnoux est elle aussi reconduite, ayant fait ses preuves à l'usage. Aux ailes, le staff albigeois retente le coup tactique de faire glisser Toux Wassinibu sur le côté gauche avec son coéquipier et compère Nabarro, le meilleur marqueur d'essai albigeois. Une tactique qui n'avait pas été payante face à Provence Rugby, mais qui face au Massif Rouennais n'est peut-être pas dénuée de sens. Enfin, Thomas Lasselle sera à l'arrière, amenant une alternative de plus au pied à Romain Barthélémy et Thibaut Bisman. Car Benjamin Caminati, excusez-moi, est en congé paternité et Mathieu Peluchon, sélectionné avec l'équipe d'Espagne, pour un périple là aussi, mais au... Espérons qu'il revienne en meilleure forme que la dernière fois, mais bon, ne soyons pas superstitieux. Quant à Vladnistor, il est en équipe nationale lui aussi, mais de Roumanie, tandis que Tunuta Valea, ayant bien repris l'entraînement, mais Arnaud Mella nous a expliqué hier qu'il allait subir une arthroscopie. Car lors de son entorse face à Bourg, il a dû se casser un petit bout de ménisque et de ce fait, ce morceau qui se dépasse en son genou le gêne grandement, allant jusqu'à parfois lui bloquer le genou. Donc Tunuta Valea ne sera pas de retour sous les couleurs jaune et noire avant janvier, ce qui n'est pas une bonne nouvelle tant le perce-muraille vice-capitaine albigeois peut être précieux. Les remplaçants face à Rouen seront les suivants: Bastien de Dieu, Arnaud Feltrin, Patrick Toetou, Ruslan Boukérou de retour aux suspensions, Vincent Calas, Laurent Magnaval, Benoît Sicard, Antonin Ollier, Benoît Sevestre et Raph NJK. C'est sur ce groupe qui a montré un jeu retrouvé, une conquête au rendez-vous samedi dernier, car Nomela compte pour aller glaner de précieux points dans le bocage normand. Mais pour réussir cette mission, les albigeois vont devoir maîtriser un de leurs péchés récurrents cette saison, l'indiscipline, qui les a vus réaliser aucun clean sheet en la matière, n'ayant jamais pu finir un match sans se ramasser un carton. C'est certain étant même plus qu'évitable. Écoutons Arnaud Mella qui répondait à ce sujet à notre micro hier après-midi lors de la mise en place. Concernant l'indiscipline qui coûte assez cher au club financièrement et même sportivement, est-ce que tu as prévu des mesures de rétorsion? Parce que l'indiscipline est criante quand même cette année depuis le début de saison.
Non, après, quand j'estimerai que les cartons jaunes sont stupides, et bien le joueur ne jouera pas le week-end après et les week-ends suivants, et il fera du physique avec les prépas. Après, il y a des cartons jaunes des fois qui sont accidentels ou des fautes répétées ou des choses comme ça. Donc ça sera à moi de juger, mais quand ça sera des gestes stupides, mais le joueur ne jouera plus jusqu'à qu'il se calme.
Merci. On l'aura compris, Nomani Tonga risque de tourner quelque temps autour du terrain annexe du stadium sous la baguette de Sébastien Carat, le prépa physique du club, accessoirement pour ceux qui l'oublient des fois, champion d'Europe avec Brive à Cardiff en 97, auteur des deux essais de la gagne ce jour-là, et grand passionné de fauconnerie à ses heures perdues. Enfin, tout le monde va devoir y passer à la prépa physique car cette trêve entre le dernier match de la phase aller le 9 décembre au stadium face à Strasbourg et la réception des Savoyards de Chambéry le 13 janvier toujours à la maison est une véritable intersaison avec sa litanie de problématiques en termes de conditions physiques. C'est pour cela que, dans l'optique de garder un rythme assez soutenu et réduire l'écart de cette coupure, Arnaud Mella nous a expliqué qu'il avait la volonté d'organiser deux matchs amicaux, un après la réception de Strasbourg, sûrement face à Castanet, pensionnaire de Fédéral 1, et un autre avant la reprise du championnat contre des espoirs et pourquoi pas contre ceux du Stade toulousain. Car il faut le dire et le redire, ce calendrier de Fédéral 1 Elite ne tient pas la route. Il serait quand même bon de réformer grandement ce championnat qui pourrait être une véritable Pro D3 s'il était mieux structuré. Mais avant de conclure sur ce match face à Rouen, alors que les joueurs actuellement redressent la barre sportivement peu à peu, en coulisses ça reste un brin, cela au SCA.
Ton univers, toi y a fort.
Dallas.
Et sous ton soleil implacable.
Dallas.
Tu ne redoutes que la mort.
Et oui, nous avons appris hier que le poste de DGS du club est un poste plus que compliqué et polémique au Sporting Club albigeois. Alors que le DGS actuel, Jean-Jacques Vérac, est souvent dans le collimateur des supporters, la dépêche confirmait, comme nous l'avions laissé entendre l'an dernier, que son prédécesseur allait refaire parler de lui. En effet, Hugues Henry, l'ancien titulaire du poste, était convoqué hier devant...
Mesdames, Messieurs, la cour !
Selon nos confrères de France 3 et à la Dépêche, il était, et je cite, « poursuivi cet après-midi devant le tribunal correctionnel de l'Albi pour abus de biens par un dirigeant à des fins personnelles, faux et usage de faux en écriture entre le 11 juillet 2011 et le 13 septembre 2013 ». Fin citation. Passé en audience correctionnelle hier, le journal qui, comme la réclame d'époque le stipulait, informe vite et bien, et la télé régionale, nous apprennent que cette affaire, qui avait été classée sans suite puis rouverte par une constitution de partie civile, a quand même mis 4 ans à être jugé en correctionnel, tant assez ubuesque quand on sait que ce genre d'affaires est d'habitude traité en 3 à 6 mois. Surtout comme dans le cas présent, quand le prévenu ne nie pas les faits. Mais selon une source proche du club, le fait que les lignées de la brigade financière soient arrivées lors de la constitution de partie civile a ralenti la procédure, mais a permis de faire remonter 43 000 euros au lieu d'une vingtaine qui avait été remarquée par le club. Mais bon... Mystère sur le classement sans suite, puis la réouverture dossier a posteriori. Les voies de la justice du SCA sont impénétrables. La Dépêche conclut ce nouveau défraiement de chronique du SCA. 4 ans après les faits, et dont la direction actuelle n'est pas comptable, par un embauché, et je commence la citation, embauché le 22 juillet 2011 au poste de directeur général du club, qui évoluait en Pro D2, le prévenu qui s'est présenté sans avocat avait négocié un salaire de plus de 4000 euros net. En septembre 2013, lorsqu'une partie de ses malversations apparaît, il est écarté par le biais d'une rupture conventionnelle, d'échecs falsifiés en fausse facture. L'ex-dirigeant général, âgé 57 ans au moment des faits, aurait encaissé 43 000 euros. Le prévenu a toujours reconnu les faits. L'ex-dirigeant du CA a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 43 451 euros de dommages et intérêts. Le préjudice moral du club n'a pas été retenu. Fin de citation. Donc la Dépêche nous apprend que le préjudice moral n'a donc pas été retenu pour le club. Et nous saurons sûrement bientôt quelle en est la motivation. Quant au sieur Hugues Henry, ancien DGS du SCA et fondateur d'Auvergne, il évite donc...
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer.
Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini.
Quant au président Romain Goux, lui, jouant ce matin, il n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet, estimant que cette histoire était du passé. Pour changer de sujet, nous avons profité... pour lui demander, tant qu'à l'avoir au téléphone, si les gendarmes financiers de la DNACG étaient passés faire leur état des lieux intermédiaire. Le président du SCA nous a expliqué que le club étant en positif et ayant envoyé le bilan arrêté au 31 décembre du club, les limiers financiers de l'FFR ne descendraient pas dans la cité épiscopale car tout était OK. Bonne nouvelle. Espérons maintenant que la convention soit vite signée avec l'association du SCA et tous les signaux seront au vert. Car actuellement, la SASP a une grosse épée Damoclès sur la tête. Imaginez-vous, n'importe quel kidam qui arrive avec des capitaux et qui monte une SASP peut signer la convention avec l'asso et dire à l'actuelle SASP, comme une certaine Valérie Treveller, merci pour ce moment. Mais bon, nous n'en sommes pas encore loin de là, espérons-le. Pour finir sur les coulisses sporting, il est à noter qu'il se murmurerait que dans le prochain magazine supplément mensuel de nos confrères du Midi Olympique, dit Midol, une ancienne personnalité du SCA devrait y être à l'honneur, à vérifier dès lundi dans les kiosques. Allez, pour conclure sur le Sporting Club Albigeois, même si c'est souvent cela... aussi un peu ce côté Don Camillo et Pépone qui fait le charme de ce club. Et on espère de tout cœur que samedi, ils nous ramèneront une nouvelle prestation aboutie, car actuellement sur le pré, les joueurs font le job et portent très haut les couleurs du SCA. Allez, maintenant, passons à notre sport, passons au foot avec les filles de l'SPTT. Même si elles sont exemptes cette semaine de D1 féminine pour cause de trêve internationale, nous avons quand même suivi une vaillante footeuse qui se prépare pour un match déjà capital contre Guingamp, dimanche 3 décembre à 15h au stade Maurice Rigaud. Nous avons tout d'abord eu Yvonne Lecourt, recrue estivale à Spételbi, qui est revenue avec nous sur ses objectifs, excusez-moi aujourd'hui j'ai un peu de mal, et surtout sur le derby face à Rodez du week-end dernier. Yvonne Lecourt, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous avez participé avant-hier au match entre Albi et Rodez qui s'est terminé par un match nul 0-0. Vos impressions sur ce match qui a été quand même assez physique, assez dur?
Oui, le match était très très compliqué. Mm-hmm. En premier mi-temps, on s'est vraiment fait marcher dessus. Et en deuxième mi-temps, on a eu un peu un sursaut d'orgueil et là, on a essayé de jouer quoi.
Et pour vous, personnellement, ça a été un match aussi compliqué ou vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu un petit peu?
Oh, c'était un match compliqué dans la mesure où j'avais un travail. Mm-hmm. Donc, j'avais un travail individuel. Mm-hmm. Et par la suite, je devais apporter un peu de plus au groupe, quoi.
Et comment vous expliquez ce début de première mi-temps un peu timoré où vous avez eu du mal à sortir les vestiaires hein, le groupe albigeois que vous êtes?
Ça, je sais pas. Je sais que le préparateur physique a fait son travail, donc c'est bien chauffé. Mm-hmm. Et voilà, ça arrive. Il y a des jours comme ça. Voilà.
C'était un jour sans, on va dire.
Oui, c'était un jour sans, quoi, franchement. J'espère que c'est juste, ça va pas se répéter pour nous, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Bon, quand même, ce point ramassé à Rodez sera quand même assez important pour votre objectif maintien. C'est des points qui comptent. L'essentiel, c'est de ne pas perdre, même si vous y étiez allé avec l'ambition quand même d'essayer de ramener 3 points.
Oui, déjà, vous savez, au football, quand on dit si on n'arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. Mm-hmm. Donc, déjà, là, on a pris un point. Je pense qu'il va compter. Il va compter par la suite. C'est un peu rageant d'aller faire un match nul là-bas, sur la dynamique qu'on avait, mais je pense que ce point-là, il comptera. Bien pour sûr. L'instant, il compte derrière nous, donc on fera tout pour qu'elle reste, pour qu'elle ne nous passe pas devant, et essayer d'aller chercher la victoire contre Guingamp.
Bien sûr, puisque ce sera un match qui sera toujours aussi primordial pour le maintien. Pour revenir sur ce derby d'Occitanie, quelles a été vos impressions par rapport à ce premier derby que vous viviez, même bon, si vous avez vécu des événements un peu plus grands, puisque vous avez participé aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde féminine déjà, mais ce premier derby d'Occitanie, comment l'avez-vous vécu?
Vous savez, un derby reste un derby. Mm-hmm. Ouais, déjà, on l'avait en tête depuis un certain temps, il ne faut pas perdre à Rodez, il ne faut pas perdre à Rodez. Et moi, je me suis dit, oula, il ne faut pas trop se mettre ça dans la tête.
Pour revenir un peu plus sur votre cas personnel, on sait que vous êtes internationale camerounaise. Quels sont vos objectifs en équipe nationale?
Là, déjà, c'est être bon en club.
Oui.
Parce que ça ne sert à rien d'aller en sélection si on n'est pas bon en club. Essayer d'engranger des résultats, ne pas se blesser. Et en ce qui concerne la sélection, déjà être sélectionné, même si j'ai l'habitude d'y être. Mm-hmm. Et si vous qualifiez pour la CAN qui se tient trop au Ghana.
Et puis, dans un an, il y a aussi une Coupe du Monde en France. Ça, c'est peut-être un petit objectif aussi pour votre sélection.
Mais effectivement, là, pour le moment, on ne pense pas déjà à la Coupe du Monde. On pense qu'on va prendre objectif, match après match, parce que là, il faut qu'on se qualifie pour la CAN. Et par la suite, on jouera les éliminatoires de la Coupe du Monde qui est en France. Franchement, ce serait vraiment très plaisant pour moi de jouer dans le pays dans lequel j'ai voulu, quoi.
Bien sûr, ça aurait une saveur particulière pour vous. Surtout qu'il y a des, il y a des matchs qui seront pas trop loin de la maison.
Au moins, j'aurais la possibilité peut-être de jouer devant des gens que je connais encore plus. Et voilà. Je jouerai pour peut-être plus pour ce Rodez, je penserai au club, même si peut-être je joue pour, avec les couleurs de mon pays. Ce sera, voilà, on dira Yvonne qui évolue à Rodez, pardon, à Guy.
Plutôt, oui.
Si
vous partez à Rodez, ça va faire encore des fâcheries entre les Tarnais et les Aveyronnais.
Non, pour le moment, je suis à Albi, je suis albigeois, je resterai.
Rassurez les supporters albigeois qui, même si vous ne savez pas longtemps que vous êtes là, commencent à tenir à vous, puisque vous êtes imposé quand même dans ce 11 albigeois comme une des pièces maîtresses en très peu de temps.
Je ne peux que dire merci au président, au coach et à mes coéquipiers, parce que vous savez, le football, c'est un sport collectif.
Bien sûr.
Donc, on ne peut que briller grâce aux autres.
Tout à fait. Et pour terminer, comment jugeriez-vous le début de saison de votre équipe, la SPT Albi, et personnellement le vôtre, en quelques mots?
On fait un très bon début de saison. Mm-hmm. Franchement, pour le moment, rien n'a dit. J'espère qu'on va continuer sur ce lancer. Et j'espère que moi aussi, je vais continuer sur ce lancer et pas me blesser, donner le meilleur de moi-même, jouer pour le collectif et qu'on se maintienne plus tôt, quoi. Si on pouvait se maintenir avant en février, ça c'est mon objectif, se maintenir le plus tôt que possible.
Pour après essayer d'aller peut-être grappiller des places et faire un beau résultat en essayant d'arriver dans le ventre mou du championnat.
Oui, si on termine 5e, 6e, ce sera pas mal, quoi. Je sais que nous avons les qualités pour aller chercher cette place-là. À nous de nous bouger et donner le meilleur de nous-mêmes.
Ok, Yvonne, on va finir sur ces belles paroles et en vous souhaitant à vous et à vos copines de la SPDT toute la réussite que vous méritez.
Merci beaucoup.
Au revoir, Yvonne.
Au revoir.
Mais cette semaine, avec la première convocation de Kim Caso en sélection avec l'équipe de France B, nous ne pouvions ne pas demander à la goléador albigeoise formée au club ses impressions sur cette première avec le maillot bleu. On écoute Kim. Kim Caso, bonjour.
Bonjour.
Donc, après ce derby d'Occitanie face à Rodez, qui a laissé quelques petits regrets, vous avez enchaîné avec une bonne nouvelle, un rêve d'enfance qui s'est réalisé, votre sélection en équipe de France B. Kim, comment s'est passé ses premiers pas dans le grand bain de Clairefontaine?
Ouais, ça s'est bien passé. Après, c'est une très bonne expérience et une très belle expérience. Je reviens avec beaucoup de positifs et avec... beaucoup de détermination et je sais sur qu'est-ce que j'ai à bosser ou pas et donc c'est de beaux enseignements, quoi.
Et votre intégration dans le groupe, parce que vous avez côtoyé maintenant des joueuses quand même de haut rang dans le football français, ça s'est bien passé cette intégration?
Oui, tout s'est très bien passé. Elles sont gentilles, hein, après. Non, ça s'est bien passé.
Après, en plus, dans le groupe, j'ai vu qu'il y avait des adversaires de Fleury que vous avez rencontrés récemment, donc vous avez dû peut-être refaire le match ensemble.
Non, pas du tout. On n'a pas du tout parlé du match qu'on a joué l'une contre l'autre. C'était elle aussi sa première sélection. Mm-hmm. Donc, elle était un peu plus à l'aise que moi, mais non, on n'a pas du tout parlé de l'adversité qu'il y a entre nous.
Et ses premiers pas à Clairefontaine, parce que Clairefontaine, pour toute personne qui a pratiqué du foot ou qui suit le foot, c'est quand même un lieu mythique du football français. Et pas un petit peu d'émotion pour les premiers pas dans cet antre du football français?
Oui, c'est sûr, il y a toujours un peu d'émotion parce que j'étais jamais allé à Clairefontaine, donc je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Et c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas mardi matin, j'étais assez impressionné encore plus que ce qui m'attendait, donc... je sais pas, c'est inexplicable en fait. Il faut vraiment le vivre pour savoir ce que ça fait, quoi.
On veut bien vous croire. Et alors maintenant, avec cette expérience emmagasinée en équipe de France, le but ça va être de le retransmettre à Albi, à la SPDT, au sein du groupe avec vos copines de la SPDT.
Oui, après voilà.
De le partager même, on va dire.
Oui, de le partager. Après j'ai appris certaines choses. Après l'équipe de France est totalement différent avec ce qu'on peut vivre en club, du moins à la SPDT, je pense, ça va beaucoup plus vite. Mmh. Donc il y a beaucoup plus d'intensité. Donc voilà, après c'est toujours un plus. Et Et comme je le disais il y a quelques secondes, je reviens plus déterminée que jamais pour travailler sur mes points faibles et tout faire pour y retourner, quoi.
Et aller passer quelques banderies pour faire augmenter votre capital but.
Ah oui, c'est l'objectif, c'est sûr.
Bon, donc maintenant, focus sur Guingamp, le prochain match à domicile qui va être très important aussi pour votre objectif maintien.
Oui, oui, après, voilà, moi j'étais pas là cette semaine, mais je suis sûr que le groupe a très bien travaillé. On va se préparer aussi la semaine prochaine pour aller prendre 3 points à la maison et je sais qu'on est capable de le faire. On peut embêter Guingamp, on l'a déjà fait. Donc on reste quand même sur de bonnes prestations, mis à part Rodez où on était un peu moins bien, même si voilà, il n'y a pas tout qui est à jeter, mais je pense que si on joue sur les points faibles de Guingamp et sur nos points forts à nous, on pourra aller chercher la victoire.
Eh bien, comme chaque match à domicile, on sera à vos côtés pour suivre les aventures de l'SPT Albi. Merci Kim et à très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Maintenant, place au match Guingamp que nous essaierons de commenter en direct. Et pour cela, nous faisons un petit appel aux mécènes ou aux sponsors, car cela engendre des moyens techniques, humains et financiers. Et ceux qui souhaitent nous accompagner dans cette aventure, n'hésitez pas à nous contacter au 05 63 60 60 02 ou à radioalbiges@gmail.com. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. Et cela vaut aussi pour les matchs du SCA, bien sûr. Dans tous les cas, et quoi qu'il en soit, nous serons le dimanche 3 décembre à Rigaud pour suivre les filles de l'SPT Albi dans ce match entre prétendantes au maintien et en espérant qu'à la fin, on entendrait le cri de guerre des filles de l'SPTT. Allez, sur ce Maxsport touche à sa fin et sera réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que le 9 décembre, nous commenterons bien sûr le match du Sporting Club Albigeois face à Strasbourg au Stadium Municipal d'Albi. Merci à Will pour la technique comme d'habitude. Et en vous disant, allez à SCA, à Desias et à mardi, 12h30.